Chapitre 3 Monsieur Orlac père, Spirit. Un murmure inintelligible. Je vous écrirai, monsieur, merci. L'agent d'assurance s'esquive assez ahuri. Et Rosine, prostrée contre la porte close, reste là sans bouger, fixant un point qu'elle ne voit pas. Elle se rappelle avec stupeur. Tout un monde d'affreuses possibilités se découvre. Oui, les grands artistes se font assurer maintenant. Les danseurs font garantir leurs pieds, les pianistes leurs mains. Les mains de Stéphane devaient être assurées aujourd'hui, chacune pour 500 000 francs. Et peut-être qu'il est trop tard. Dans quel état sont-elles ? Voyons, un effort. Ah oui, tailladée, lacérée, brisée peut-être. Elle n'a pas bien vu. C'était si peu de choses, ses mains, quand il s'agissait de la vie elle-même. Mais l'art, pour Stephen, son art, n'est-ce pas la moitié de sa vie ? N'est-ce pas aussi toute sa fortune ? Ah, ses mains, ses belles mains blanches, fines, souples, si prestes et si nerveuses, ses mains virtuoses, les deux fées danseuses du clavier, dispensatrices de joie, de gloire et d'abondance. Ah, s'il doit rester mutilé, plutôt que frappe de la sorte, vaudrait-il pas mieux 100 fois qu'il soit aveugle comme tant de musiciens, qu'il soit sourd au besoin comme Beethoven ou Smetana. Mais ses mains, oh non, non, pas cela. Il en mourrait, il ne faut pas. Elle se jette sur le téléphone. Le professeur Serral, enfin je veux dire, Kléber 2543. Un temps s'écoule. On est allé chercher le chirurgien là-bas dans l'hôtel blanc. Qui me demande ? C'est moi, maître, Madame Orlac. J'ai oublié de vous dire. Les mains, mon mari, c'est Stéphane Orlac, le pianiste. Alors les mains, docteur, sauvez-les. Il faut les sauver à tout prix, vous comprenez. Comment va-t-il ? On répond très posément. Monsieur Orlac, petite madame, ne va ni mieux ni plus mal. Il a bien supporté la première intervention. Toujours sans connaissance. Ce qui domine notre affaire, c'est que le blessé puisse affronter l'opération de demain. Pour le moment, il est, si j'ose dire, imprégné de sérum. C'est une fleur coupée dans un vase plein d'eau. Une fleur qu'il s'agit de replanter. Nous en sommes là. La contusion au cerveau, voilà le hic. Le reste secondaire, y compris les mains. Je ne puis vous assurer que d'une chose, c'est que tout sera fait de ce qui est faisable. Que j'emploierai tout mon pouvoir à sauver l'artiste avec l'homme. Votre chambre vous attend. Adieu, petite madame, et courage. Une force mystérieuse, l'obscur qui nous porte tous à préciser nos douleurs, la pousse vers le salon. Là, le grand piano à queue dort son sommeil d'eau noire, dans un silence qui fait penser au mutisme d'une sirène. Ce piano, ce silence, rien ne peut matérialiser plus cruellement l'inquiétude de Rosine. Et le salon lui-même n'est pas le lieu qui l'apaiserait. Non seulement à cause de sa couleur blanche et noire qui est funéraire, non seulement à cause des palmes qui tapissent les murs de trophées artistiques et qui maintenant parlent tout haut du cimetière, mais à cause aussi de son luxe. À quoi tient ce luxe, en effet ? À la vie de Stephen, à son talent, à ses mains. Oh Dieu, s'il venait à mourir, Rosine se moquerait pas mal de tous les luxes du monde. Mais il vivra, il le faut. Et si ses mains le trahissent, si son talent disparaît, mais comment s'en passera-t-il, lui, de ce luxe auquel il est habitué désormais ? Ce luxe qui lui va si bien, dont il s'entoure si naturellement. Pourrait-il s'en priver ? Pourrait-il, sans désespoir, reprendre la piètre vie d'autrefois. Rosine est accoudée au piano. Elle y plonge son regard comme dans un lac taciturne où le passé mirerait ses rivages. Elle revoit Stéphane entrant un jour d'hiver dans la petite boutique de Maman Monet, la marchande de musique de la rue Monsieur le Prince, la bonne tante de Rosine. Ce jour d'hiver, Rosine a 17 ans. Elle est sortie du lycée l'année d'avant, bachelière, orpheline. La tante Monet, sœur de sa pauvre mère, l'a recueillie chez elle. Qu'est-ce que Rosine deviendra? On ne sait. En attendant, elle range des morceaux de musique dans des cartons. Et voilà qu'en ce jour d'hiver, ce jeune homme entre dans la boutique. Il est maigre et mal habillé, l'air pas riche, mais content tout de même. Il demande en location les arabesques de Debussy. La tante est sortie par hasard. On cause. Ils se sont aimés tout à coup pour la vie. Stéphane est revenu chaque jour. La tante a bien vu de quoi il retournait. Le mariage s'est décidé comme cela. Et c'est alors que les choses se sont compliquées. Stéphane, à cette époque, suivait les cours du conservatoire. C'était l'année de son premier prix. Depuis 3 ans, il avait envoyé promener le notariat et quitter l'étude paternelle où M. Édouard Orlac le préparait à prendre dignement sa succession. La vocation de l'artiste avait tout emporté. Mais le terrible tabellion ne pardonnait pas. Il avait coupé les vivres à son fils et refusait de le revoir. Oui, depuis 3 ans, le pauvre Stéphane vivait misérablement grâce aux subsides que son vieil ami M. de Crochant lui glissait à l'insu du notaire. Celui-ci, jetant le manche après la cognée, avait vendu son étude. Il ne s'occupait plus que d'occultisme avec M. de Crochant. Bon M. de Crochant, oh excellent chevalier! Comme il s'était donné du mal pour fléchir le père Orlac et tâcher d'obtenir son consentement au mariage. Mais rien n'avait attendri le féroce original, et l'on s'était passé de lui avec tristesse. Quel homme que ce vieillard, ce veuf au nez crochu, qui aurait pu être le grand-père de son fils. Rosine aperçoit sa tête d'épervier au fond du miroir ténébreux. Ici dresse telle qu'il s'est montré à elle lorsqu'il voulut bien les recevoir après le premier prix. Ses lauriers l'ont adouci. Pressé par M. de Crochant, il a reconnu, oh de mauvaise grâce, que Stéphane pouvait devenir quelqu'un. Il n'a point nié que Rosine fût honnête, mais il les a reçus froidement malgré tout. Et depuis lors, on ne le voit que de temps à autre, quand on lui fait de ces visites glaciales qui terrorisent sa bru plusieurs jours à l'avance. Pourtant, Dieu sait que Stéphane est devenu quelqu'un. Une renommée foudroyante l'a placé au premier rang du jour au lendemain. Sans aide que celle de ses maîtres, sans commanditaire d'aucune sorte, sans cabotinage, sans exotisme, il s'est trouvé dans la lumière du triomphe, coude à coude avec les meilleurs. Tout à coup, on s'est littéralement jeté sur lui. La surabondance les comble de ses biens. Surabondance, tel serait du moins le vrai mot, si Stéphane n'était pas ce qu'il est. Artiste, épris des beaux objets, charitable jusqu'à la prodigalité et insoucieux d'épargne, hostile à toute prévoyance. Ce qu'il gagne ne fait que passer chez lui. Son coffre n'est qu'un réservoir d'où l'or, né de ses mains, roule constamment vers les fournisseurs et les pauvres. Que de ses mains cesse de sourdre le magique pactole, que lui restera-t-il ? Ses meubles d'art, ses tentures signées, ses vases uniques et des factures à payer. et penser que l'indigence ne serait rien au regard du désespoir de l'artiste privé de sa dextérité. Ah, si pareil malheur arrivait, c'est alors que le père Orlac triompherait à son tour. De quel ricanement ne va-t-il pas accueillir l'annonce de l'accident ? Car il va l'apprendre, si ce n'est déjà fait. N'est-il pas indispensable que Rosine aille chez lui de sa personne ? Évidemment, il faut le mettre au courant, lui donner sans tarder des nouvelles de son fils. Petite corvée sur grand chagrin. Rosine contemple tristement le décor du bonheur compromis. Elle tient l'enveloppe destinée au médecin-major et qui n'est pas encore fermée. À l'instant, elle hésite, reprend l'un des 5 billets, songe quelques secondes, puis le remet dans l'enveloppe et la cachette, disant avec un geste de défi, « Oh, nous verrons bien, d'ici là, restons chic. » La voici prête, un petit sac de voyage à la main. Le temps est maussade, il bruine et les rues sont boueuses. Va-t-elle demander un taxi par téléphone ? Elle regarde le beau décor, le piano, l'enveloppe et sort à pied. Jamais Rosine n'est allée seule chez le père Orlac. Elle y accompagnait Stephen. Là se borne leur relation. Cette fois, plus encore que d'habitude, elle appréhende l'abord du vieillard bougon et maniaque. L'ancien notaire habite tout près rue d'Assas, à un petit hôtel encastré dans l'étau de deux grandes maisons de rapport, et dont il abandonne le deuxième étage au chevalier de Crochant. Monsieur de Crochant, chevalier pour rire et peintre pour de vrai, est son inséparable. Rosine n'a jamais très bien démêlé si le gentilhomme est aussi passionné de spiritisme que le notaire. Il a tant d'intérêt, lui qui est pauvre, à flatter la marotte de son ami. Toujours est-il que les vieux compagnons vivent ainsi superposés, en bonne intelligence, l'un acceptant avec le sourire la tyrannie de l'autre, les deux spirites, comme on les appelle dans le quartier. Et Rosine trotte en trottin sous son parapluie, élégante, rythmique et légère, d'un joli pas de Paris. La sonnette de la grille fait un bruit de l'autre siècle. Les volets du rez-de-chaussée sont clos. Au deuxième étage, l'atelier de M. de Crochant expose à la pluie sa grande baie vitrée. On entr'ouvre plutôt, c'est Crépin, le valet de chambre. Il montre sa face de sexagénaire que la variole a criblé de petits trous comme un champ de bataille vu en avion. Monsieur de Crochant, qui aime à plaisanter, prétend que Crépin est l'ouvrage d'un dieu pointilliste et ne laisse pas de l'estimer, moins pour une extraction si artistique que pour de suffisantes vertus. Par contre, il ne prise en aucune façon Madame Crépin. Hermance, dont la tête blafarde vient d'apparaître derrière celle de son époux. Celle-là, il faut toujours qu'elle fourre son nez partout. Rien ne se passe ici qu'elle n'y fasse figurer sa figure. Et quelle figure ! Par quel apprenti créateur, modelé ? Pas de forme, pas de couleur, une ébauche maladroite et plâtreuse, un effacement qui ferait croire qu'on est devenu soudain myope ou presbyte, et qu'on ne voit plus les choses qu'à travers un brouillard. En quelques mots, Rosine a dit son malheur sur les marches, à la pluie, le couple ancillaire obstruant l'entrée. Crépin reste bouche bée. Mais Hermance fait entendre des sons mal graissés. « Monsieur n'est pas visible, Mme Stéphane. Ça tombe ben mal pour sûr. Mais voyez-vous, il y a séance ce matin. » Une séance extraordinaire, Mme Stephen. Ah, regardez les persiennes au salon, elles sont fermées. Ça vient sûrement de commencer. Il y a venu 3 médiums. Aujourd'hui, l'occultisme dont Rosine se rit d'ordinaire Il semble tout à coup redoutable et vraiment mystérieux. Pourtant, ce qui l'agite en premier, c'est l'indignation. « Mais enfin, son fils !» s'écrie-t-elle. « Chut, chut !» siffle Hermance. « Faut pas faire tant de bruit, parce qu'on se ferait enlever !»« Mais son fils !» répète la jeune femme en sourdine. Hermance lève aux yeux ses prunelles incolores. « Il n'y a pas de fils qui tienne, Mme Stéphane, vous savez bien. Avec monsieur, il n'y a pas de fils. Il n'y a que le spiritis. » Hélas, Rosine sait bien en effet qu'au sens du père Orlac, une table tournante est plus digne d'intérêt que Stéphane. Mais elle ne peut se défendre d'un mouvement de haine envers cette répudiante créature qui a toujours excité le père contre le fils, ne cherchant qu'à soutirer de son maître le plus de libéralité possible, de la main à la main, entre vif ou par testament. La femme de charge s'est placée devant Crépin. On voit ses mains qui ressemblent à des pieds d'homme. Et de ses mains pédestres, elle ne cesse de palper ses hanches, comme surprise et navrée de ne jamais les trouver au rendez-vous. Crépin dit alors avec timidité pourtant, en portant sur la ménagère un œil consultatif, « Tu sais, monsieur de Crochant n'est pas encore descendu. Madame Stéphane pourrait peut-être le voir. » « Mais il va se faire enlever, il est en retard, jubile Hermance. Voulez-vous monter là-haut, Mme Stéphane ? Dites-y qu'il se dépêche. Quoi qu'il fait donc là-haut ?» Rosine se dispose à entrer. Mais Hermance a lorgné ses bottines qui ont un peu de boue. Et faisant de son corps un obstacle hideux, « Passez par le corridor, dit-elle, comme ça, monsieur... « Vous entendra pas. » Le corridor, c'est le grand couloir sombre de l'immeuble voisin. Cet immeuble appartient au père Orlac et pour permettre au chevalier de Crochant d'avoir une entrée particulière, il y a fait pratiquer une porte. De là, un escalier monte directement au deuxième étage de l'hôtel. « Soit, dit Rosine. » Ce qui l'offusque, ce qui la met hors d'elle-même, ce n'est pas d'être traitée de la sorte. C'est l'indifférence des gens à l'égard de Stéphane. Est-il possible qu'il y ait des indifférents aujourd'hui quand cet être délicieux est entre la vie et la mort ? Et elle éprouve de la gêne à penser qu'elle va se trouver devant M. de Crochant, perpétuel chanteur qui ne saura rien encore et qui aura son bon sourire de Napoléon III, chauve et facétieux. Qu'il est gentil, monsieur de Crochant. Oh, il n'est pas gai du tout. Le voilà planté comme un terme. Quoi ? Point de chanson, point de sourire ? Et, ah, c'est ce journal qu'il tient et qui porte en manchette la catastrophe de Montgeron. Vous savez déjà quel malheur, dites. Quoi, quoi ? S'effare le chevalier. Mais vous n'avez pas lu le journal, la catastrophe de Montgeron ? Eh bien, ma chère petite, non, non, j'allais lire. Qu'avez-vous, Seigneur ? Voilà qu'il faut encore raconter. Il y en a qui trouveraient un soulagement, voire une espèce de plaisir, à retracer ainsi, tout le temps, de mieux en mieux, l'aventure dramatique. Mère Rosine, qu'elle en est loin. Asseyez-vous, mon enfant. Le récit est commencé. Mais la comtesse a beau faire, l'étrangeté de cet atelier lui coupe toujours la respiration. Jamais elle ne s'habituera à la danse macabre de ce squelette qui gigote avec cliquetis toutes les fois qu'on remue la porte. Jamais non plus ces deux choses-là qu'elle découvre en se retournant pour s'asseoir, ne l'a pareillement ému jusqu'à l'effroi.